Bonjour, bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Cette semaine se tenait à l'université Paris-Dauphine le 5e congrès mondial de l'enseignement du journalisme. J'en ai profité pour rencontrer Cousson Traoré-Salle. Elle dirige le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, qui forme au journalisme à Dakar des jeunes venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Dans la deuxième partie de l'émission, on discutera journalisme de données avec la Tunisienne Noura Belaïd. Elle est directrice des études de l'Université centrale de Tunis.
Atelier@rfi.fr.
Je m'appelle Cousson Traoré-Salle, la directrice du CESTI.
Alors le CESTI, c'est la plus vieille école de journalisme en Afrique de l'Ouest. Combien d'étudiants journalistes sont sortis de votre école ?
Le CESTI est... Une vieille école de journalisme située en Afrique de l'Ouest. Elle a été créée, cette école, en 1965 avec l'appui de l'UNESCO et des coopérations françaises et canadiennes. Depuis sa création, en 1965, le CESTI a formé 1222 journalistes, dont 619 Sénégalais, et 603 non-sénégalais. Nous sommes une école panafricaine qui regroupe plusieurs nationalités. Actuellement, nous avons une dizaine de nationalités au CESTI, à tous les niveaux de la formation. Une école dont la vocation première est de former des journalistes.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la formation du CESTI, c'est les formations en langue locale, en Wolof, en Poulard, etc. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai que depuis deux années, nous avons repensé la formation au CESTI en intégrant l'enseignement des langues nationales codifiées du Sénégal, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a maintenant une multiplication d'émissions en langue nationale, c'est d'un, mais aussi permettre à nos étudiants d'atteindre une plus large cible, parce qu'effectivement nous organisons le concours dans 5 pôles régionaux du pays. Nous allons vers les candidats du pays aussi dans un souci de partager notre expertise et de nous ouvrir plus à la société. Nous avons dit qu'il était temps quand même que des étudiants apprennent les langues nationales pour pouvoir donner les informations en langue nationale d'une façon beaucoup plus professionnelle.
Et ce que vous faites aussi, ce que vous demandez, ce que vous imposez à vos étudiants, c'est d'aller en milieu rural pour faire des semaines en immersion et les sortir de Dakar et des grands milieux urbains.
Oui, le stage pratique est une exigence, c'est une phase obligatoire de la formation des journalistes en deuxième année. On les met en situation, ils sortent de Dakar, ils vont dans une localité du pays et c'est pour leur permettre aussi de mieux comprendre les réalités socio-culturelles des localités éloignées du pays. C'est le rôle du journaliste de pouvoir s'adapter à toutes sortes de réalités.
Alors, vous dirigez une école de journalisme en Afrique de l'Ouest. Y a-t-il des spécificités à l'enseignement du journalisme en Afrique de l'Ouest ? Vous qui voyagez beaucoup et vous voyez ce que font vos collègues en Europe, aux États-Unis, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on enseigne et des façons de travailler propres à l'Afrique de l'Ouest ?
Oui, il y a effectivement des spécificités d'une école à une autre. Chaque école a ses réalités, mais nous nous retrouvons quand même parce que ce sont les mêmes fondamentaux du métier qui sont enseignés aux journalistes. Ce sont ces modules qui aident à renforcer les aptitudes du journaliste à mieux décrypter, à analyser, à collecter, à trier et à véhiculer l'information vraie et vraiment la rendre accessible au public. Mais des innovations sont notées dans les écoles en fonction des besoins de nos journalistes dans nos différents pays.
Et justement, ces journalistes, quand ils sortent d'école, ont-ils des débouchés nécessaires ? Trouvent-ils du travail rapidement ?
Alors, nous, notre mission est non seulement de leur donner une formation de qualité, mais encore de leur donner suffisamment d'outils pour qu'ils soient fonctionnels dès qu'ils sortent du CESTI. C'est vrai que l'insertion professionnelle est un problème dans tous les pays africains, mais le journaliste qui est suffisamment outillé pourra trouver facilement un métier, surtout s'il a certaines compétences qui sont liées à son développement personnel.
Que peut-on souhaiter au CESTI, donc au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, pour le futur ?
Alors, pour le futur, nous souhaitons encore rehausser l'image de notre école, parce que c'est vrai que c'est avec fierté que nous le disons. Nous sommes une école de renommée et nous sommes une école ouverte au monde extérieur, parce que nous organisons des sessions de formation dans des pays partenaires. Nous organisons le concours chaque année dans certains pays d'Afrique. Nous recevons même des étudiants de la France qui font le concours et qui viennent faire une formation à Dakar. Nous avons aussi initié des formations de renforcement de capacité des journalistes qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre ou d'avoir un encadrement professionnel dans le cadre d'un partenariat avec le syndicat des journalistes de Dakar, le comité des éditeurs et diffuseurs de presse et le ministère de la communication. Donc nous sommes une école ouverte au monde extérieur, mais notre souci est de partager notre expertise avec le monde extérieur et nous partageons avec beaucoup de générosité notre expertise. Nous travaillons pour toujours renforcer l'image de notre école à travers la formation que nous donnons, mais aussi nous apportons des innovations majeures dans notre système de formation pour que nos étudiants soient toujours parmi les meilleurs journalistes.
Recevez-vous beaucoup de femmes qui veulent être des journalistes, justement ? Est-ce que vous avez une politique volontariste pour avoir plus d'étudiantes ?
Ah, c'est une question pertinente en tant que femme. Nous organisons un concours vraiment transparent en mettant des anonymats sur les feuilles d'examen. Et à la délibération, les membres du comité pédagogique n'ont aucune idée de l'identité des candidats. Nous délibérons dans la plus grande transparence. Et je me rappelle, il y a quelques années, nous avons retenu, après la délibération, une promotion sans femmes. Il n'y avait aucune fille dans la promotion et les étudiants même ont produit un film dans ce sens. Pourquoi il n'y avait pas de femmes ? J'ai dit non, ce qui est plus important, c'est de retenir les meilleurs étudiants. Je souhaiterais qu'il y en ait encore des filles, qu'il y ait encore des filles qui soient retenues. Mais actuellement, nous avons des filles parce qu'ils ont aussi un excellent niveau. Hein. Mais comme nous ne décidons pas de leur admission au concours, parce que c'est un problème de genre qui se pose là, donc c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, aux garçons, aux filles, et nous retenons les meilleurs, que ce soit les filles ou les garçons.
Mais vous ne voulez pas, pour l'instant, avoir une politique volontariste, justement, pour essayer de rééquilibrer la balance et qu'il y ait un petit peu plus de voix pour les femmes dans le journalisme ?
Moi, c'est un objectif. Hein. C'est vraiment mon objectif d'ouvrir encore la formation aux filles, en allant dans les lycées de filles. C'est vraiment une vision que nous avons, encourager les filles à faire le concours, faire la promotion des journalistes femmes, parce que nous avons d'excellentes journalistes femmes qui font très bien leur travail, même si il y a des contraintes parfois liées à la profession. Il faut dire que les femmes font ce travail avec une bonne conscience professionnelle et tiennent toujours le bon bout.
Merci Koussoun Traoré-Sall.
Je vous remercie.
L'atelier des médias.
En bref, le Parlement français a définitivement adopté cette semaine l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique. Ça fait de la France l'un des premiers pays à imposer le chiffre d'affaires d'une trentaine d'entreprises comme Google, Facebook, Amazon, Apple, Mythic ou encore Airbnb. L'idée, c'est de les obliger légalement à verser à l'État français 3% de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Les États-Unis, où sont installés la plupart des mastodontes du numérique, ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur les effets de cette taxe qu'ils jugent inéquitable. Ils envisagent déjà une riposte en imposant par exemple des droits de douane sur les produits français ou autres mesures de rétorsion commerciale. Paris, de son côté, répond qu'il est juste question ici de souveraineté. On retourne au Congrès mondial de l'enseignement du journalisme avec une universitaire tunisienne.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour, je suis Noa Belaïd de la Tunisie, je suis enseignante de journalisme, directrice des études donc l'Université centrale de Tunis. En même temps, je suis éditrice de l'Observatoire arabe du journalisme. Et voilà.
Dans l'enseignement actuel du journalisme en Tunisie, est-ce que vous avez l'impression que des choses ont changé ces dernières années ?
Bien évidemment, surtout qu'on a commencé à enseigner le journalisme dans l'école privée en Tunisie, parce que à l'époque, l'enseignement du journalisme était limité à une seule école publique. Et après donc la révolution, on a commencé à enseigner le journalisme dans certains établissements universitaires qui avaient d'autres formations. Mais voilà que le contexte donc médiatique et ce contexte de liberté d'expression nous a permis de lancer la formation au journalisme. Et donc dans notre université maintenant, depuis 2011, on a déjà enseigné on a lancé plutôt des promotions, pas mal de promotions de journalisme. Et il y a même des étudiants qui sont venus en France faire leur master ou autre. Donc déjà ce contexte médiatique nous a permis de développer des projets d'enseignement. Et sinon, si on parle du contenu, bien évidemment la formation en journalisme diffère de celle avant la révolution, parce que avant la révolution, non seulement il y avait des restrictions par rapport au journalisme, mais par rapport aussi aux enseignants du journalisme. C'est-à-dire on raconte pas tout, on parle pas de tout, même si on le raconte, on le raconte pas en public dans la classe. C'est que voilà, on se connaît, les profs, on sait avec qui on parle, on traite tel sujet ou autre. Et la manière avec laquelle les enseignants passent l'information est différente. Moi, je fais partie de cette génération qui a appris le journalisme avant la Révolution. Je suis celle qui a en fait participé au changement de la manière avec laquelle on enseigne le journalisme. Donc, on accorde plus de liberté à l'étudiant en classe. D'ailleurs, on a fait des formations de pédagogie sur ce sens, comment accorder la liberté d'expression au sein de la classe dans une école de journalisme. Parce que c'est un élément très important, parce que les étudiants, ils ont besoin de s'exprimer sur des sujets d'actualité, non seulement internationaux, parce qu'à l'époque, on se concentrait beaucoup plus sur tout ce qui est international. Et bien maintenant, non. L'actualité nationale, elle est très importante. Elle est plus importante même que tout ce qui est international pour nous. Et puis, il y a toujours de l'actualité maintenant en Tunisie.
Et les étudiants qui souhaitent faire du journalisme, dans quel état d'esprit arrivent-ils dans votre université ?
Certainement, si on n'aime pas le journalisme, on ne sera pas prêt pour faire le journalisme. C'est-à-dire, on peut avoir la moyenne, une très bonne moyenne qui nous permet d'avoir accès à l'école du journalisme. Mais réellement, si on n'aime pas exercer le métier, on ne rêve pas de devenir grand animateur ou un grand journaliste ou un grand correspondant de guerre. Actuellement, c'est ce que les étudiants rêvent de devenir dans les zones de conflit, tout ça, en Syrie,
en
Libye, voilà. Donc, si on n'a pas ce rêve, on pourra pas réellement exercer le métier de journaliste, parce que le métier de journaliste, c'est avant d'être donc un métier, c'est un rêve à réaliser, et qu'il faut qu'il y ait des compétences nécessaires. Par exemple, maîtriser les langues, parce qu'en Tunisie, par exemple, la première langue, c'est la langue arabe, mais en même temps, il y a le français, il y a l'anglais, c'est à développer donc au fil des années pour que le journaliste puisse développer après sa carrière professionnelle, étant donné qu'on est ouvert, donc on reçoit des invités de l'étranger, tout ça. Donc l'arabe, qu'on veut ou pas, c'est pas la première langue qui à l'international. Mais en même temps, donc, on a des journaux, on a des médias en langue arabe, mais on a aussi donc, des journaux en français. Donc, mis à part ça, donc, avec le développement, l'évolution technologique, et les compétences technologiques qui sont très importantes aujourd'hui. Donc déjà, quand il arrive, l'étudiant ou l'apprenti arrive au bac, déjà, il a des compétences développées en technologie. parce qu'il avait un cours d'informatique et puis la politique générale du pays, donc elle encourage à la présence d'un ordinateur ou c'est d'une manière générale parce que tout dépend des moyens du foyer, de chaque foyer, donc la présence des ordinateurs, le cours d'informatique, déjà quand on arrive à l'université on a ces compétences basiques et puis après on devrait avoir un cours d'informatique et mis à part ça dans le cadre d'ateliers donc de presse électronique ou n'importe quel atelier aujourd'hui parce que la télé elle est présente aujourd'hui sur le web, il n'y a plus de télé juste classique ou la radio, le contenu est présent sur le web. Donc voilà, donc ça nous permet de développer les pratiques technologiques médiatiques des étudiants en même temps.
Et justement, ces étudiants ont-ils envie de travailler sur Internet, d'être des journalistes web? Est-ce que c'est la voie de destination majeure des étudiants qui sortent de votre école?
À l'époque, quand on parlait de la presse électronique, on se limitait à tout ce qui est écrit, c'est-à-dire rédiger un article. Dans la majorité des classes du journalisme, réellement les étudiants n'aiment pas écrire, alors que réellement on écrit pour la radio, on écrit pour la télé. Mais aujourd'hui, quand on fait la radio et la télé, on parle aussi du cross-média et du transmédia. Il y a présence de contenu sur différents supports. Le journaliste aujourd'hui, il sait bien que le jour où il va présenter une émission, il sera présent sur le web, même on fait un Facebook Live ou autre, on va présenter le contenu sur le site. Donc on essaie de créer ou de former des étudiants polyvalents, et ce qui réellement encourage ces étudiants à être beaucoup plus assidus pendant le cours ou l'atelier de presse électronique. Parce qu'on apprend aux étudiants déjà que le storytelling, le transmedia, tout ça, donc ce sont des choses très importantes pour vous. Et donc ils développent des compétences, mis à part les autres ateliers, donc télé ou autre, ils développent des compétences technologiques en parallèle.
Au cours de ce rassemblement de formation d'école, de journalisme, d'université qui forme au journalisme, vous intervenez notamment sur le data journalisme dans le monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les pays qui sont en pointe sur le data journalisme dans le monde arabe?
Pour être brave, donc l'expérience de l'enseignement du journalisme de données n'est pas assez développée comme dans des pays européens et surtout les pays anglophones. Cependant, quand même, on a quelques expériences enregistrées qui sont développées. Par exemple, au Maroc, à l'Institut LESIC, c'est l'Institut de communication, parce qu'on n'a pas de différence entre journalisme et communication réellement dans le monde arabe. On ne fait pas de la séparation. C'est dans la même école qu'on enseigne les deux. Donc, dans cette école-là, on a intégré tout un cours, c'est-à-dire un cours à part entière qui s'appelle journalisme de données. Prochainement, par exemple, à l'université libanaise, ils vont lancer un programme de journalisme de données. Et à part ça, dans le monde arabe, on a un problème, puisque avant de passer déjà à la visualisation des informations, à la présentation visuelle des informations, on a ce problème d'accès à l'information. Si on regarde donc le contexte général du pays du monde arabe, il n'y en a que 4 ou 5 pays qui ont déjà une loi qui traite la question de l'accès à l'information. Donc on travaille beaucoup sur ça avec le OpenGov, vous savez c'est un projet international, donc on essaie de développer avec les collègues cette expérience. Et à partir du moment où on arrive donc à l'enseignement du data journalisme, on a un manque d'enseignants de data journalisme. C'est-à-dire, si je vais lancer un cours de journalisme de données, je devrais trouver un prof qui enseigne, ou beaucoup, parce que tout dépend du nombre de groupes d'étudiants. Donc à part ça, est-ce que les étudiants de licence, ils sont prêts ou ils ont les compétences nécessaires pour avoir un cours de data journalisme? Par exemple, à l'USIC, c'était destiné aux étudiants de master, parce qu'ils ont des compétences plus développées. Et puis quand on fait des formations en journalisme avec des organisations internationales, les journalistes, ils savent déjà en fait comment choisir le sujet, trouver l'angle, trouver les sources d'information. Donc ils ont des compétences plus développées. C'est ça qu'on préfère destiner, c'est que la formation ou le cours de data journalisme soit destiné aux étudiants en master, ou sinon qu'il soit un diplôme à part entière.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Vous venez d'entendre Noura Belaïd, directrice des études de l'Université centrale de Tunis. Elle intervenait au Congrès mondial de l'enseignement du journalisme à Paris cette semaine. Avant de se quitter, je vous rappelle que Mondoblog, notre réseau de blogueurs francophones, commente assidûment la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Rendez-vous sur le site cannes2019.mondoblog.org. C'est tout pour l'atelier des médias cette semaine. Simon Decreuse était à la réalisation, Steven Jambeau au micro. L'adresse pour nous écrire n'a pas changé, c'est atelier@rfi.fr. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà chose faite, de vous abonner à notre podcast pour écouter en version longue l'atelier des médias. RFI.